Bonjour, ce cahier, on peut dire qu'il complète le premier livre. Il y avait la théorie, puis maintenant place à la pratique.
Absolument. C'est vrai que la plupart des gens qui suivent les cours viennent chercher des explications. Donc le premier livre correspondait bien à ce fonctionnement. Mais effectivement, il y a toute une catégorie de gens qui préfèrent apprendre en faisant ou découvrir par eux-mêmes, comme si c'est eux qui inventent la matière. Donc voilà. Pour l'autre catégorie la plus représentative des apprentissages, ceux qui ont besoin de passer à l'action.
Donc le but, c'est bien d'identifier les stratégies mentales qu'on va mettre en place lorsqu'on doit apprendre quelque chose.
Oui, et puis d'exercer aussi tout ce qu'on fait quand on apprend, c'est-à-dire à exercer à se concentrer, exercer à mémoriser, exercer à comprendre. Vous savez, très souvent, les parents sont confrontés au moment des devoirs où l'enfant, il lit sa consigne puis dit « je comprends rien ». Marqué à l'école, ça arrive aussi, hein, que l'enseignant est confronté à ça. Et ben, exercer comment on fait pour comprendre quand on pense qu'on ne comprend rien. Comment on fait aussi pour réfléchir et imaginer. Ça, c'est ces cinq gestes mentaux qui sont représentatifs de tout ce dont on a besoin quand on veut apprendre et comprendre. Et puis c'est vrai, quand on peut les exercer, quand on est conscient, ben, ça devient un peu plus léger, quoi.
Alors ça se présente sous la forme d'exercices à faire, avec des images à regarder, des sons à écouter, des objets à palper. La première étape, c'est comprendre l'évocation, la forme que tout ça prend chez chacun d'entre nous.
Oui, c'est vraiment prendre conscience comment c'est pour nous. C'est vrai que très souvent, les gens, ils viennent parce qu'ils aimeraient aider leurs enfants, leurs élèves, mais aussi très vite, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir vraiment les aider s'ils ne savent pas comment eux, ils font. Et il y a tellement de croyances et de malentendus ou d'a priori liés aussi au langage et puis à ce qu'on a vécu quand on était enfant, que la plupart du temps, les gens, bon, ben, ils répondent aux questions qu'on leur pose, mais ils ne savent pas comment ils ont fait dans leur tête, parce que ce n'est pas forcément le propos. Là, c'est vraiment l'idée de prendre un peu de temps pour comprendre comment je fais dans ma tête. Et bien sûr, quand tout va bien, on se dit que ce n'est pas forcément utile, mais quand tout va mal, qu'on n'arrive pas à se décider, qu'on n'arrive pas à prendre les bonnes... à répondre bien aux questions, ben, ça vaut le coup de se lancer là-dedans.
Vous parlez de croyances et de malentendus. Quel genre de croyances, quel genre de malentendus?
Alors, une croyance ou un malentendu qui arrive très très souvent, c'est que les gens, quand ils ont lu un texte, ils croient qu'après, ils vont pouvoir le revoir dans leur tête. Et puis, non. Alors, il y en a qui peuvent, oui, mais pas tout le monde. Il y a vraiment des gens qui disent, ouais, mais tu l'as lu, tu le photographies, puis après tu le vois. Et ça, c'est, je pense, la chose la plus courante que je rencontre. Tous ces gens qui, de par le langage, hein, je l'ai vu en perception, je l'ai lu, donc après, je dois pouvoir le revoir quand je ne le regarde pas. D'ailleurs, on dit, tu vois, photographie. Et ça envoie vraiment dans des conseils, enfin, ça envoie plutôt contre le mur, quoi. Je veux dire, l'enfant, parfois, il n'y arrive pas à faire ça. Mais il faut juste qu'il se rende compte qu'il peut faire autrement, puis que ça va très bien aussi.
Alors, l'enfant qu'on va pouvoir aider avec ces exercices, ces 33 suggestions
ou
mentales.
L'adulte.
Et j'allais le dire, ou l'adulte.
Absolument.
Parce que, bon, bah, voilà, les enfants, bah, ils sont formatés pour apprendre, on va dire. C'est un petit peu leur boulot d'apprendre et puis de suivre les cours à l'école. Pour les adultes, c'est quoi l'utilité?
Ben, vous voyez, maintenant, j'ai quand même régulièrement aussi des adultes qui viennent parce qu'ils sont en train de refaire une formation. Hein. Il y a la vie qui fait qu'on fait d'autres métiers. Et puis, il y a des gens qui, à un moment donné, prennent un petit peu de temps pour eux, parce que c'est des gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas de mémoire. Et encore tout dernièrement, j'ai rencontré une dame que j'avais eue en cours il y a quelques années qui m'a dit, mais quel bonheur de se rendre compte que c'était pas que j'avais pas de mémoire, mais que j'étais juste auditive d'évocation. Et du coup, elle est devenue conteuse. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de mémoire, c'est quand même magnifique. Et c'est vrai que ça amène aussi beaucoup de confiance en soi, aussi pour les décisions du quotidien. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se décider, qui n'arrivent pas à choisir. Et puis, en fin de compte, quand on sait comment on prend nos décisions, la forme, hein, ben, si on est auditif, il faut qu'on se dise des choses qui vont nous permettre de prendre la bonne décision. Hein. Puis quand on est visuel d'évocation, il faut qu'on arrive à voir des images ou fabriquer un film qui vont nous permettre de prendre cette bonne décision. Mais très souvent, la conscience, elle n'est pas là. Et qui fait qu'on hésite, on hésite, puis on est juste en train de se rendre compte qu'on n'arrive pas à décider.
C'est possible de se former à d'autres façons d'apprendre, ou le mieux c'est de bien connaître la nôtre et de tabler là-dessus?
Alors, dans mon expérience actuelle, hein, je veux dire jusqu'à présent, ce qui me paraît le plus efficace, c'est de connaître nos forces et nos faiblesses dans les trois étapes, c'est-à-dire savoir quelle est notre préférence de perception, comment je préfère que ça entre, hein, si je préfère de le lire, l'écouter, l'écrire, ou il me faut les trois. Mais bon, souvent les trois, ça ne sert pas à grand-chose. Ça fait juste un peu de fatigue et d'énervement de voir. L'autre point important me paraît de savoir vraiment la forme dans ma tête, donc la forme d'évocation, mais aussi les préférences et voir les faiblesses à la restitution. Vous savez bien qu'il y a des gens qui sont très bons dans le parler, et là j'en ai trois à mon avis qui sont super bons là-dedans, mais bon. Maintenant, est-ce que vous aimiez les examens écrits? Je veux dire, est-ce que c'était facile pour vous de les rédiger ou pas, voyez? Donc une fois qu'on connaît force et faiblesse dans les trois étapes, ben là, je veux dire, on est vraiment, comment dirais-je, en équilibre, on est tranquille. Il y a plus grand-chose qui peut nous faire peur. Hein, il y a beaucoup de sécurité. Et c'est quand même cool de vivre une vie en sécurité.
Et puis là, alors, dans ce cahier, vous proposez des exercices, s'entraîner, prendre conscience des étapes, se perfectionner. C'est vraiment le but de cet exercice. On doit aussi avoir un petit peu une discipline parce qu'on est un peu seul face au cahier.
Alors, on peut être seul face au cahier parce que ça peut être... une démarche personnelle, mais ça peut être une démarche familiale, ou alors une démarche dans un cours, à la suite d'un cours, et puis bon, bien sûr la démarche des enseignants avec leur classe. Et c'est vrai que l'idée, c'est aussi la comparaison, parce que nous, on a accès à notre tête, mais une fois qu'on sait un petit peu comment ça se passe dans la tête des autres, on a aussi beaucoup de tolérance qui arrive à ce moment-là, hein, et on va un petit peu se calquer sur ce dont a besoin l'autre.
Et puis ces exercices, on peut les faire également pendant une émission de radio en direct, et on vous le prouve dans un instant.